Bonjour et bienvenue dans notre émission Il était une fois en Cornouailles sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles, et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouailles bretonne. En cette semaine du 11 novembre, je vais évoquer les légendes que les Bretons de Cornouailles racontaient dans les tranchées, puis, dans une seconde partie, comme vous en avez maintenant l'habitude, je vous lirai une histoire improvisée à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous aura envoyé sur notre page Facebook. Mais commençons donc par l'évocation des légendes durant la Première Guerre mondiale. Alors, je vois d'ici votre sourcil qui se soulève et vos yeux qui s'étonnent, alors que vos lèvres esquissent une moue réprobatrice. Quel peut être le rapport entre les contes et légendes de la Cornouailles bretonne et la Grande Guerre ? Eh bien, imaginez tous ces jeunes gens confrontés à la plus grande des absurdités, la guerre. Non pas une guerre que l'on fait la fleur au fusil, mais une guerre terrible, où la science et la technologie mettent leur puissance et leur efficacité au service des pulsions destructrices de quelques hommes de pouvoir. Nous connaissons l'utilité des contes et des légendes. Ils permettent à l'homme d'apprivoiser son environnement intérieur par les contes et extérieur par les légendes. Pour résumer, les contes et légendes rassurent. Nulle surprise donc qu'un environnement aussi terrible que celui de la guerre dans les tranchées ait ravivé ce réflexe, cet instinct fondamental qui est d'expliquer ce qui se passe en imaginant des choses. Cela permet de comprendre sans doute aujourd'hui encore le succès des fake news et des théories conspirationnistes sur les extraterrestres, les reptiliens, les Illuminati et que sais-je encore. Tout cela n'est qu'une nouvelle forme de conte au fond. Voyez donc notre pauvre jeune Breton de Cornouailles qui a été mobilisé et se retrouve, grelottant de froid dans une tranchée boueuse de champagne, sursautant à la moindre détonation, pensant sa dernière heure venue à chaque explosion et ayant perdu plusieurs de ses camarades, dont les cadavres ne sont parfois même pas enterrés. Ajoutez à cela des rats qui grouillent et vous aurez une petite idée de l'environnement. Ce qui se passe autour de lui est tellement aberrant, tellement inexplicable par la raison qu'il va se réfugier dans les souvenirs de son enfance. Cette période douce où ses parents lui racontaient des histoires de son pays pour l'endormir, ou pour lui expliquer pourquoi il ne devait pas aller à tel ou tel endroit. Cela va lui permettre de se calmer un peu et de ne pas se faire submerger par la peur. Dans son livre sur les légendes, les prophéties et les superstitions de la Grande Guerre, Albert Doza nous explique que les Bretons des tranchées étaient mal vus par leurs autorités hiérarchiques à cause de cette propension qu'ils avaient à faire travailler leur imaginaire. Parfois, souvent, ils devenaient à cause de cela les relayeurs de fausses nouvelles, voire de panique. Combien cependant ont été tués pour prouver leur fidélité à la France ou obéir aux ordres sans lâcher les copains. Leur nom couvre les monuments aux morts de la Cornouailles bretonne et ils ont mon plus grand respect ou mon total respect comme on dirait aujourd'hui. Mais revenons à nos légendes des tranchées. Que racontaient nos jeunes Bretons pendant la Grande Guerre ? La première de ces légendes est l'invention d'une arme secrète qui devait changer le cours de la guerre en promettant une victoire écrasante, la poudre Turpin. Cet explosif était, disait-on, tellement puissant qu'il pouvait éventrer n'importe quel fort, fût-il renforcé par du béton armé. La turpinite était tellement sophistiquée qu'elle ciblait ses victimes et ne tuait que les Allemands. Un Français, même placé au milieu d'une explosion, n'aurait rien eu à craindre. Une autre arme secrète était les flèches d'avion, détruisant un corps d'armée d'un seul coup, ou des obus gigantesques faisant des trouées de 100 mètres, sorte de bombe atomique avant l'heure. Une autre légende qui a eu la vie dure jusqu'en 1917 est le débarquement de troupes russes pour venir aider. Des courriers, jamais envoyés évidemment, mentionnaient leur arrivée en grand nombre dans les ports français, dont Brest. Sur un plan plus surnaturel maintenant, tandis que des soldats anglais furent persuadés d'avoir vu Saint-Georges venir à leur secours avec ses grandes ailes blanches et une épée de lumière, les Bretons, eux, voyaient régulièrement Saint-Michel intervenir à leur profit par des pareils d'olis, des illusions d'optique réinterprétant ce qui est vu, liées aux lueurs des explosions. Des blessés bretons sur le champ de bataille ont vu la Vierge ou Sainte-Anne venir les réconforter, tandis que les premiers aéroplanes aperçus devenaient des anges dans les yeux de ceux qui ne savaient pas encore de quoi il s'agissait. Parfois, il s'est agi du roi Arthur apparaissant dans le ciel, accompagné des chevaliers de la Table Ronde pour prévenir de terribles batailles à venir. Il existe encore aujourd'hui un présage de ce type vers Châteauneuf-du-Fou et les montagnes noires de la Cornouaille bretonne. Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, sera pour les Bretons des tranchées transformé en chien noir, rejoignant la flopée d'esprits mauvais exorcisés par les prêtres et enfermés dans de tels animaux, avant d'être précipité dans les marais du Yonnelez où se trouve une entrée des enfers. Dans le contexte des tranchées où la mort était omniprésente, il n'était pas rare de voir des fantômes. Ce genre de récit était même très répandu. Un certain Jacques Guézenec de Quimper raconte dans une lettre à son épouse qu'un soir, quelque chose de très étrange s'était passé à la lumière de la pleine lune le long des tranchées. Il a affirmé qu'à l'époque il était éveillé et alerte, mais qu'il avait vu passer deux grands chiens fantomatiques et colorés, reliés par une courte chaîne d'acier, qui ont traversé la terre déchirée par la bataille avant de disparaître. Il a raconté « J'avais d'abord entendu une petite note au loin, puis un hurlement profond et lugubre m'avait obligé à saisir mon fusil et à rester vigilant. En fait, je cherchais un chien, dans la mesure où mes yeux pouvaient sonder la campagne plate, sans arbres et éclairée par la lune. Tout à coup, les deux chiens étaient devant mes yeux et tout aussi soudainement, ils étaient partis, avec le son de leurs aboiements qui parvenait à mes oreilles. » Lorsqu'il a parlé aux autres de son expérience, beaucoup ont également affirmé les avoir vus, et ils ont dit que les chiens fantômes apparaissaient presque toujours, juste avant que quelque chose de dramatique ne se produise. Il existe de nombreux autres récits tels que ceux-ci qui se sont produits au cours de cette guerre sans merci. Des colonnes de soldats français montant vers le front lors de la bataille de Verdun assurent avoir croisé des colonnes fantomatiques d'unités décimées qui repartaient pourtant vers l'arrière. Toujours à Verdun, certains des hommes sur les lignes de front ont commencé à parler d'un soldat fantomatique, vêtu de vieux vêtements de la guerre franco-prussienne de 1870, avec une longue barbe blanche et des joues roses. On disait que cette apparition surgissait du ciel pour venir au secours des Français, et les récits des escapades du vieil homme spectral sont nombreuses. Parfois, il aurait fait tomber les armes des mains de l'ennemi ou les aurait fait trébucher. D'autres fois, il aurait guidé les Français et leur aurait montré où aller. Il les aurait même poussés physiquement pour les mettre à l'abri du danger. Beaucoup de soldats ont raconté qu'ils avaient été poussés par terre par le fantôme alors qu'une balle était sur le point de les toucher à la tête. Il a également été signalé que le fantôme soignait les blessés ou offrait un verre d'eau avant de disparaître dans les airs. Une autre apparition insolite a eu lieu lorsque les gaz de combat ont été utilisés en 1915 vers la ville d'Ypres en Belgique. Un ingénieur français en a raconté l'histoire à un membre du clergé américain. Voici le récit de cette rencontre. Les soldats ont regardé en direction du No Man's Land et ont vu un nuage gris étrange se diriger vers eux. Lorsque ce nuage les a atteints, le chaos a éclaté. Les hommes tombèrent tout autour de l'ingénieur et la tranchée fut en ébullition. Puis, dit ce dernier, une chose étrange s'est produite. Une silhouette est sortie de la brume et a traversé le No Man's Land. Il semblait ne pas bénéficier d'une protection spéciale et portait l'uniforme du Royal Army Medical Corps. L'ingénieur s'est rappelé que cet étranger parlait anglais avec ce qui semblait être un fort accent français. À sa ceinture, l'inconnu, qui était sorti du nuage empoisonné, avait une série de petits crochets sur lesquels étaient suspendus des gobelets en étain. Dans sa main, il portait un seau avec ce qui ressemblait à de l'eau à l'intérieur. Alors qu'il glissait dans la tranchée, il commença à prendre les gobelets, les plongeant dans le seau et les distribuant aux soldats en leur disant de boire rapidement. L'ingénieur était parmi ceux qui ont reçu de cette potion. Il a dit que c'était extrêmement salé, presque trop salé pour être avalé. Cependant, tous les soldats à qui on avait proposé le liquide en ont bu, et aucun d'entre eux n'a souffert des effets durables du gaz. Lorsque le nuage de gaz s'est dispersé et que les choses se sont calmées, il était impossible de retrouver ce visiteur insolite. Le Royal Medical Corps n'a pas pu fournir d'explication. Des milliers de soldats sont morts ou ont subi les conséquences durables de cette terrible attaque au gaz. Mais aucun soldat ayant pris cette potion distribuée par cet étranger ne figure parmi les victimes. Apparemment, cet étranger a disparu du champ de bataille et n'a plus jamais été revu. À ces diverses visions s'ajoutent de nombreux récits de cavaliers fantômes qui ont traversé la zone de guerre lors de la bataille du Cateau en 1914. Ils sont passés devant le feu de l'ennemi sans subir de dégâts notables. Ils apparaissaient et disparaissaient subitement à l'improviste. Parfois, ces cavaliers attaquaient l'ennemi. Un ancien lieutenant-colonel a raconté cette histoire. « Je chevauchais vers les tranchées avec deux autres officiers. Nous parlions et faisons de notre mieux pour ne pas nous endormir sur nos chevaux. En avançant, je me suis rendu compte que, dans les champs situés des deux côtés de la route sur laquelle nous nous trouvions, je pouvais voir un très grand corps de cavaliers. Ces cavaliers avaient l'apparence d'escadrons de cavalerie et semblaient traverser les champs et aller dans la même direction que nous, tout en restant à la même hauteur que nous. Je n'ai pas dit un seul mot à ce sujet au début, mais je les ai regardés pendant environ 20 minutes. Les deux autres officiers avaient cessé de parler. Enfin, l'un d'eux m'a demandé si je voyais quelque chose dans les champs. Je leur ai dit ce que j'avais vu. Le troisième officier a ensuite avoué qu'il surveillait lui aussi ses cavaliers depuis 20 minutes. Nous étions si convaincus qu'il s'agissait de véritables cavaliers que, à la halte suivante, l'un des officiers conduisit un groupe d'hommes pour faire une reconnaissance, mais il ne trouva personne. La nuit s'est assombrie et nous n'avons plus rien vu. Beaucoup de gens ont vu ces cavaliers fantômes et ont tous décrit la même chose. À au moins une occasion, ces cavaliers sont apparus devant toute une unité de soldats et un caporal a raconté la rencontre, faite par sa propre compagnie. Nous avions presque fini de nous replier et après avoir marché une journée et une nuit entière avec à peine une demi-heure de repos, nous nous sommes retrouvés dans la banlieue de Longwy près de Paris, à l'aube. Nous avons alors vu devant nous de grands corps de cavalerie tous formés en escadron. C'étaient de beaux et grands hommes sur de gigantesques chevaux. Je me souviens de m'être tourné vers mes copains dans les rangs et d'avoir dit « Dieu merci, nous ne sommes pas loin de Paris maintenant, regardez la cavalerie. » Eux aussi les ont vus assez clairement, mais en se rapprochant, à notre grande surprise, les cavaliers ont disparu et ont cédé la place à des bancs de brume blanche parsemés de touffes d'arbres et de buissons. Le phénomène de ces cavaliers a été principalement associé à un autre mystère, celui des anges de Mons, dans lequel des anges ont été vus au-dessus du champ de bataille à la même époque, près de la ville de Mons en Belgique. Certains imputent ce récit à la fatigue et au stress constant de la guerre. Dans certains cas, les apparitions observées étaient plus familières. Apparemment, les fantômes des amis ou de la famille des soldats s'adressaient aussi à ceux qui en avaient besoin en cette période de guerre acharnée. Un jeune homme de Morlaix dans les tranchées dit avoir été sauvé par le fantôme de sa mère décédée, qu'il a éloigné de l'endroit où un obus allemand allait frapper quelques instants plus tard. Dans son journal intime, le soldat écrit en s'adressant à sa défunte mère « Une nuit, alors que je portais des bombes, j'ai eu l'occasion de me mettre à l'abri lorsque, à une vingtaine de mètres, je t'ai vu me regarder aussi simplement que si tu étais vivante. J'ai rampé jusqu'à l'endroit où ta vision est apparue. Si tu n'avais pas été là, j'aurais certainement été signalé comme étant porté disparu, comme les autres restés dans la tranchée. Tu reviendras, maman, la prochaine fois qu'un obus arrive ?» Un autre récit assez connu du fantôme d'un être cher descendant sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale date d'avril 1917 et concerne cette fois un jeune homme de Pontivy, Joseph Gourvennec. Ce dernier dit qu'il s'était endormi dans le froid là-bas en plein air quand il fut réveillé par deux mains chaudes sur son visage. Lorsqu'il a levé les yeux, il aurait vu debout son frère tué au combat 2 ans auparavant. L'apparition de son frère est restée silencieuse, faisant signe à Joseph de le suivre. Il a suivi son frère décédé sur une ruine d'un bâtiment bombardé sur le champ de bataille. Après cela, le frère s'est évaporé sous ses yeux. Peu de temps après, un obus ennemi s'est écrasé dans le bunker où il se trouvait quelques instants auparavant, tuant tout le monde à l'intérieur. Une autre fois, en décembre 1915, dans les tranchées d'Ypres, un sous-lieutenant se mettait à l'abri de l'assaut ennemi. À ce moment-là, il avait peur car les combats étaient devenus un véritable bain de sang et son ami proche était décédé plus tôt dans la journée. Pourtant, alors qu'il était assis tremblant sous les obus et les tirs d'artillerie, son ami décédé vint soudain se promener nonchalamment dans la tranchée vers lui. L'officier a appelé un autre soldat pour voir si lui aussi le voyait. Mais à cet instant, son ami disparut dans les airs. Le lendemain soir, l'apparition est revenue, marchant cette fois vers un endroit de la tranchée et montrant la terre en dessous, avant de s'évaporer à nouveau. Agissant instinctivement, le sous-lieutenant saisit une pelle et creuse à cet endroit précis. Il y trouva un chargement d'explosifs ennemis muni d'une minuterie qui devait exploser 13 heures après. Cela lui laissa suffisamment de temps pour évacuer. Mais les fantômes n'étaient pas les seuls à l'esprit de nos poilus bretons. Une légende plus légère raconte que, suite au débarquement des Américains à Brest, ceux-ci avaient eu commerce avec des Bretonnes dont le mari était au front. Lorsqu'ils apprirent qu'ils avaient eu affaire à des femmes mariées, les 10 Américains, indignés, firent un tampon à tatouage pour marquer les femmes volages de l'inscription suivante « Femme infidèle, souvenir d'Amérique ». Cette légende fut abondamment relayée par les poilus bretons prévenant leur épouse de cette rumeur dans leur courrier envoyé vers l'arrière. Allez savoir pourquoi. Les poilus bretons à tendance bonnet rouge, eux, colportèrent aussi la rumeur selon laquelle la guerre avait été lancée par les nobles et les curés pour détruire le petit peuple devenu trop nombreux. Fake news, dirait-on aujourd'hui, fake news que l'on retrouve encore de nos jours, sauf que la guerre y est remplacée par le coronavirus. Il est une autre légende qui était répandue sur tout le front et que les Bretons n'étaient pas les derniers à transmettre, car elle rejoignait certaines de leurs propres croyances. C'était celle de l'autobus que Guillaume Apollinaire a contribué à faire connaître dans la revue Mercure de France en 1917. Pendant la guerre, tout semble faire signe. Le journaliste Blaise Sandrard, en 1915, rapporte ainsi une histoire où un soldat devant se rendre dans la ville de Bus, par autobus, est mis en garde par un autre qui lui fait remarquer que dans le mot « autobus », il y avait aussi le mot « obus ». Arrivé à Bus, le soldat averti est tué par la première bombe tombant sur cette ville qui jusque-là avait été épargnée. L'histoire se répand comme une traînée de poudre et rêver d'autobus devient le présage d'une mort prochaine. Un intersigne, comme on dit chez nous. Les Bretons vont y voir l'Ancou qui se modernise parce que sa charrette ne suffit plus à venir chercher tous les armoricains tués par la guerre. La simple évocation d'un bus suffira à porter malheur. Il faut dire que les autobus parisiens ne faisaient rien pour arranger la situation. Ils étaient parfois utilisés pour venir chercher des hommes de l'arrière et les amener en renfort sur le front en pleine nuit. Ce transport se faisait sans souci de sécurité routière et les accidents n'étaient pas rares. Une autre superstition consistait à ne jamais allumer 3 cigarettes avec la même allumette. Les soldats français et allemands se tenaient parfois les uns en face des autres à seulement quelques mètres de distance. Protégés par les tranchées, ils s'accordaient un moment de répit en fumant une cigarette. On disait alors que la flamme de l'allumette attirait d'abord l'attention de l'ennemi. Lorsque le soldat passait l'allumette à son voisin, la flamme indiquait cette fois l'endroit précis où il se trouvait et l'ennemi pouvait épauler son fusil. Et c'est le troisième fumeur qui recevait le coup de feu. Cette superstition s'est étendue aux bougies et est restée dans les mentalités. En allumer 3 à une fenêtre porte désormais malheur en Cornouailles bretonne comme ailleurs. Porte-bonheur, gris-grise et superstition foisonnent dans les tranchées mais aussi à l'arrière. La guerre décuple le sentiment de peur. Peur de la mort pour certains ou peur de perdre un proche pour d'autres. Petit à petit, on voit des vendeurs de gris-gris et porte-bonheur arpenter les rues à Quimper. C'est toute une nouvelle activité économique qui se développe autour de ce phénomène. Les familles de Cornouailles envoient des amulettes ou des prières dans les effets des poilus. Sur le front, des soldats réalisent des bagues ornées de trèfles à 4 feuilles qu'ils vendent aux camarades de l'arrière lorsqu'ils sont relevés. Des Bretons récupèrent les balles qui ont frappé un blessé ou un mort, persuadés que cela les protégera. L'Ancou, sentant sur le porteur quelque chose qui a l'odeur de la mort, pensera qu'il est déjà passé et le laissera tranquille. Voilà qui termine la première partie de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter Triane avec une chanson de circonstance, « Guerre, guerre, vent, te vent ». Et on se retrouve tout de suite après.
Après cette année de guerre, cette année de bâtiment.
Après cette année de guerre, cette année de bâtiment.
Je reviens de grande terre, je reviens à l'Orient.
Je reviens de grande terre, guerre, guerre, vent de vent.
J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant.
J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant.
Sous bon vent, souvent contraire, sous la brise. Les puissants.
Sous bon vent, souvent contraire, guerre, guerre, vent de vent.
Voyez mon sac de misère, lourd de coups, vide d'argent.
Voyez mon sac de misère, lourd de coups, vide d'argent.
Allez dire au capitaine, j'ai obéi trop souvent.
Allez dire au capitaine, guerre, guerre, vent de vent.
Revoilà ton cher aimant.
Bonjour mamie qui m'est chère. Revoilà ton cher aimant.
Je suis là de trop de guerre sans voir grandir mes enfants.
Je suis là de trop de guerre, 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 vent de vent.
J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant.
J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant.
Je t'écrivais moins peut-être, je t'envoyais des rubans.
Je t'écrivais moins peut-être.
Guerre, vous me verrez bien souvent.
Mes amis, plus que la guerre, vous me verrez bien souvent.
Après tant d'années de guerre, j'aurai tant et tant de temps.
Après tant d'années de guerre, 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 vent de
L'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant.
De l'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant.
Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps.
Les fleurs d'hiver étaient belles, guerre, guerre, vent
Merci d'être resté avec nous. Il va s'agir maintenant pour moi de relever le défi de créer une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a fait parvenir à notre association via sa page Facebook. Aujourd'hui, c'est Hélène Cogulet qui a été tirée au sort. Merci à elle d'avoir participé. Et Hélène nous propose les éléments suivants. Un korrigan âgé et blessé. Un jeune garçon franc et loyal. Un bateau fantôme. Un poisson qui parle. Une île maléfique. L'histoire improvisée d'aujourd'hui nous emmène pendant les mois noirs à une époque où l'éclairage public n'était pas encore là pour rassurer ceux qui n'avaient pas eu la chance de rentrer chez eux alors qu'il faisait encore jour. Le jeune Alexandre savait qu'il ne devait pas traîner. La nuit tombait et la brume montait du sol. Elle cacherait bientôt le chemin sous ses pieds et il risquait de se perdre. Il accéléra le pas, rentrant chez lui après avoir été donné un coup de main à un fermier des environs. Il n'avait pas été payé de sa journée en monnaie sonnante et trébuchante, ayant préféré recevoir suffisamment de nourriture pour que ses vieux parents et lui puissent manger à leur faim pendant toute la semaine suivante. Alexandre était un jeune homme franc et loyal qui faisait leur fierté, mais nul doute qu'il entendrait parler du pays s'il se perdait et ne retrouvait pas son chemin avant le lendemain matin. La nuit était maintenant là tout entière et il lui revint en mémoire tous les avertissements concernant cette période si spéciale des misdus, les mois noirs, où les créatures liées au pays des morts ou des cauchemars étaient les plus puissantes et venaient tourmenter les vivants. Il avait eu la présence d'esprit de se confectionner un karspren, une petite fourchette en bois, chez le fermier en nettoyant la charrue. En plus, il avait toujours son petit sachet en toile, son louzou, autour du cou avec à l'intérieur un trèfle à quatre feuilles et un épi de blé qui n'avait pas été écrasé par la meule du meunier. Trois talismans censés le protéger des Anaons, démons ou toute autre créature hostile qui n'était pas de ce monde. Alors qu'il traversait une clairière, Alexandre passa près d'un menhir. Quelle ne fut pas sa surprise d'entendre le rocher gémir. « Par ma foi, s'écria-t-il, un rocher qui parle. Si tu viens de la part de Dieu, dis-moi comment je peux t'aider. Mais si tu viens de la part du diable, laisse-moi poursuivre mon chemin par les trois talismans que je porte. »
« Ni l'un ni l'autre !» lui répondit une petite voix agacée. « Mais va-t'en, je ne te demande rien !»
Poussé par la curiosité comme ceux de son âge, Alexandre fit le tour du menhir pour voir d'où la voix provenait et découvrit un vieux korrigan avec une barbe jusque par terre et dont le pied gauche était pris dans un piège à lapin. « Te voilà bien râleur pour quelqu'un qui semble avoir besoin d'aide !» dit le jeune homme.
« Moi, besoin de l'aide d'un humain. Plutôt raser ma barbe jusqu'à la joue !»
répondit le korrigan de sa voix aigrelette. Garde donc ta barbe, et malgré tes mauvaises manières, je ne suis pas homme à laisser qui que ce soit dans l'embarras au bord du chemin. Alors, malgré les protestations du petit être, Alexandre débarrassa ce dernier du fil d'acier autour de son pied à l'aide du canif qu'il avait toujours sur lui. Dès que cela lui fut possible, le korrigan disparut sous le menhir sans demander son reste.
De rien,
lui cria Alexandre, agacé par tant d'ingratitude. Mais il lui fallait maintenant reprendre sa route. Pour ne pas se perdre, il décida de longer la baie de Douarnenez. Il n'avait pas marché plus d'un kilomètre qu'il entendit un clapotis furieux parmi des rochers près de la mer. Il s'approcha et vit un gros poisson qui s'était coincé dans une flaque et ne parvenait plus à rejoindre l'eau. Sans réfléchir le moins du monde, Alexandre le dégagea. Le poisson plongea dans la mer, puis revint et sortit la tête de l'eau, sous la lune bien ronde dans le ciel étoilé. « Merci, » dit-il en regardant le jeune homme. « Allons bon. Après un korrigan râleur, voilà un poisson qui parle maintenant, » s'exclama Alexandre. « Tiens ta langue, car je suis ce korrigan râleur dont tu parles avec tant de légèreté. Je voulais savoir si tu m'avais sauvé par bonté d'âme ou pour me demander de l'or. J'ai ma réponse, et malgré ton insolence, je vais te récompenser pour tes bonnes actions. » Alexandre se souvint de l'adage « Récompense de korrigan, à prendre prudemment. » « Je n'ai fait que ce que me dictait ma conscience et n'ai besoin de rien, » dit-il. « Mais merci quand même. » « Ne sois pas craintif, je ne vais pas te jouer de mauvais tours. Tu ne le mérites pas et tu m'as permis de pouvoir aller danser cette nuit. Alors écoute, cette nuit de pleine lune, le bateau du pirate La Fontenelle va sortir de la mer avec son équipage de squelettes couvert d'algues et de coraux. Tu es resté dehors trop tard. Ils vont t'emmener avec eux et tu n'y pourras rien. Cependant, tes trois talismans les empêcheront de te faire du mal. Lorsqu'ils s'en apercevront, ils deviendront fous furieux et se battront entre eux. Donne de la voix alors et fais-toi obéir. Dis-leur que tu ne quitteras leur bord que lorsqu'ils t'auront emmené dans leur île maudite et qu'ils t'auront donné la moitié de leur trésor pour te dédommager du temps qu'ils t'ont fait perdre. Si tu gardes suffisamment de courage jusqu'à l'aube, ta fortune est faite. » Puis le poisson replongea dans la mer. Comme rien ne se passait, Alexandre reprit son chemin, mais effectivement, le bateau fantôme apparut sortant des flots et voguant vers lui toute voile dehors. Je devrais d'ailleurs plutôt dire tout lambeau de voile dehors, vu l'état des voiles en question. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Alexandre fut capturé par l'équipage et emmené à bord. Là, les squelettes comprirent qu'ils ne pouvaient rien contre lui et tout se passa selon les dires du vieux korrigan. Le jeune homme parvint à se faire obéir par les squelettes qui l'emmenèrent sur leur île, puis lui donnèrent la moitié de leur trésor. Ils le ramenèrent ensuite où ils l'avaient kidnappé. Le soleil allait bientôt se lever. Alexandre rentra chez lui. Ses parents, inquiets, le reçurent à bras ouverts. Ils crièrent de surprise et de joie lorsqu'ils virent le trésor que leur enfant ramenait. Tous trois étaient désormais à l'abri du besoin pour le restant de leur vie. Voilà, Hélène, je crois que j'ai utilisé tous les éléments que vous nous avez envoyés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Cela clôt notre émission d'aujourd'hui. Il faut bien avouer qu'avec les mois noirs, la période d'Halloween ou Samhain pour les Celtes, les dernières émissions n'ont pas été d'une gaieté folle, mais c'est ça aussi les légendes bretonnes, nous ne sommes pas chez les bisounours. Toutefois, pour la prochaine émission, je vous emmène directement au paradis. Les pharmaciens du coin m'ayant demandé de changer de registre parce qu'ils étaient en rupture de stock de calmants et d'antidépresseurs, on va tâcher de mettre des couleurs dans nos émissions un peu ternes à cause de la période. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Il était une fois en Cornouailles », 26 minutes en terre des fées rien que pour vous avec la maison des contes et légendes de Cornouailles. Kenavo à Véchal. Wie kann ich sie wissen, kann sie sehen, wir tanzen.